Et spécial Grand Taioli, je m'appelle Sam Carpegna du groupe Dupin de Marseille et j'écoute Melting Pot avec Annie de Marseille.
Hey! Ciao ciao, mi chiamo Daniele Galione et je joue de la mandole dans Dupin et j'écoute Melting Pot avec Annie de Marseille de la bombe.
Si si asmalando di caso o farai un aiato. Tout le monde a faim, et chacun veut sa part. Tout le monde a faim, et chacun veut sa part. Oh, c'est ce qu'est de guerre, ça vise à dire. Et comme ça devrendra mes idées escuros.
Good morning, guten tag, bonjour, bienvenue sur Melting Talk. Aujourd'hui lundi 16 janvier, je vous propose de rencontrer le groupe Dupin, un groupe de Marseille que j'ai interviewé samedi juste avant leur concert. Là ils sont en train de faire la balance, c'est ce que vous entendez en fond sonore, avec une chanson de leur dernier album qui s'appelle En chemin. Nous avons évidemment parlé du sujet d'actualité, c'est-à-dire la loi sur les droits d'auteur, les difficultés que rencontre un groupe pour négocier un contrat avec une major ou un label indépendant, les possibilités qui lui sont données de diffuser gratuitement sa musique sur Internet ou pas. Cette balance avait un goût de concert privé uniquement pour moi, puisque j'étais seule dans la salle avec les techniciens. Mais les musiciens de Dupin m'ont donné par la suite l'autorisation d'enregistrer le concert, et je vous le conseille fortement, il sera sur meltingpod.com. Le public était très enthousiaste, ce fut un excellent moment, bravo Dupin! Je suis ce soir avec Dupin qui vient de finir sa balance. Donc bonjour Sam.
Salut. Bonjour.
C'est mieux si vous me donnez vos prénoms au passage.
Alors Sam Carpegna, chanteur, auteur, compositeur, interprète.
Sam D'Agostini, batteur, percussionniste, compositeur.
Noël Baye, bassiste.
Pierre-Laurent Bertolino, via la roue.
Salut, Daniel Gaglione, mandolo.
Donc là, on n'est pas vraiment à Marseille, mais on est à Aubagne.
Grande banlieue,
on n'est pas très loin de Marseille. Et est-ce que vous pouvez me dire un peu l'historique de Dupin ? Quand c'est que ça a commencé et dans quel lieu géographique, justement ?
Ben, ça a commencé sur Marseille, donc en 98. On avait commencé à travailler avec Pierre Laurent à la Via La Roue et moi je faisais chant et tambourin. Et puis on a fait une première cassette dans le studio où travaillait Sam D'Agostini, au studio... comment il s'appelait le studio ?
Studio Zic,
au boulevard des Dames, au grand domaine.
Il a enregistré beaucoup de groupes de rail à l'époque. Et donc on a fait notre maquette chez lui et il nous a dit bah, si vous avez besoin d'un percussionniste, en avant. Et rapidement on a continué à trois personnes et on a fait un premier album en 2000 chez Virgin, donc on avait été signé chez Virgin. On a fait l'usine en 2000, après il y a eu Noël Baye qui nous a rejoint et on a fait l'album en 2002 Camine. Voilà, toujours
chez... L'histoire c'est qu'il y a quand même dans l'évolution de la musique, ça a changé parce que rajouter la basse, ça a changé la tonalité de la musique, non ?
Ben en plus de la basse, ce qu'on a fait, on a supprimé les machines qu'on avait au départ, le séquenceur, boîte à rythme. Moi, je me suis mis à la mandole. Donc, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus acoustique et avec des rythmes très beaucoup plus ternaires, des rythmes en 6-8. De toute façon, la musique traditionnelle, au départ, c'est une musique de l'Italie du Sud ou bien du Maroc ou du Maghreb. C'est des musiques... pour guérir les gens, donc c'est ça, c'est des musiques répétitives en fait, hein, comme la musique répétitive de même Steve Reich, des choses comme ça qu'on aime beaucoup aussi. Et c'est sur la longueur que ça se développe et que ça t'emporte.
Et le choix des textes, ça se passait comment ? Parce que c'est en occitan, c'est en français, pourquoi ça a été un choix dans cette direction ?
Moi, l'occitan, de toute façon, je ne chantais pas avant. Donc, j'ai commencé à chanter parce que j'avais appris l'occitan. Et ça m'a permis de me mettre au chant. Et donc, ce qu'on a voulu faire avec le premier album à l'usine, c'était justement de contrecarrer un peu toute la culture provençale, rurale, très rurale. Au départ, il y a beaucoup de chansons sur les métiers, tout ça, de provençaux du siècle dernier ou de plus loin. Et nous, on a voulu justement travailler sur un répertoire urbain, puisqu'on est issu chacun de que ce soit Marseille ou Port-de-Bouc.
Justement, j'ai cru qu'il y avait Port-de-Bouc là. C'est toi
Port-de-Bouc? De Port-de-Bouc, on est trois en fait.
Ah, vous dites Marseille, je me disais j'avais mauvaise mémoire. C'est qui? C'est toi?
Non, non, c'est non. Port-de-Bouquet, moi. De
l'usine. Daniel aussi.
Et moi, Daniel.
Et toi?
Ouais.
Et toi?
Non, moi je suis né à Marseille.
Ah, et toi ?
Moi je suis né à Grenoble.
Ah,
l'intrus.
C'est lui l'étranger.
C'est le Gabon.
D'accord. Donc c'est en. Et toi tu as eu le. Pourquoi tu as voulu apprendre l'occitan d'abord ?
Ben, en fait, j'étais à la fac. Quand même, je fais un peu les études. Et j'ai eu un prof qui nous a fait tout un cours sur le développement local. Et comment, au cours des siècles, la culture française avait complètement disséminé toutes les cultures régionales, en fait. Qui fait qu'on aboutisse aujourd'hui au fait que plus personne, très peu de gens parlent l'occitan, le breton, le ch'timi, ou des choses comme ça. Et ça m'a paru un combat intéressant, puisque ça défendait un peu l'idée d'une culture... minoritaire.
Qu'est-ce que tu voulais prouver ? Que la langue pouvait être utilisée dans des chants qui étaient... parce que moi, je trouve que c'est un peu rock quand même, Dupin. C'est un mélange, ouais. C'est un mix. Il y a basse-batterie.
C'est rock parce qu'on en a joué. Sam, il en a joué. Daniel, Nono, moi. Moi, j'ai joué 5 ans avec les Datomica. Donc, j'ai avec Générique Vapeur aussi. J'ai une culture rock, tout ça. Puis on aime cette énergie, quoi. Après, c'est l'histoire, c'est de la mélanger, de ne pas la faire avec des guitares électriques, des batteries. comme c'est standard, c'est la faire à notre façon. Mais on ne peut pas dire qu'on fait du rock. Il y a de l'énergie rock dans ce qu'on fait, mais ce n'est pas du rock'n'roll.
Et le mix, justement, chant occitan avec basse-batterie, c'est ce qui m'a séduit tout de suite, quoi. Parce que c'est ce qui fait votre originalité. Simplement, je voulais savoir si dans les textes que je ne comprends pas, parce que moi, je ne comprends pas l'occitan, de quoi ça parle, et il me semble que c'est engagé politiquement, ou pas ?
Ouais, il y a un engagement, forcément, hein, je veux dire... On parle de ce qu'on connaît, c'est-à-dire moi je suis issu de la culture ouvrière, donc étant de Port-de-Bouc, mon père travaillait à l'usine, tout ça, donc c'est un contexte très militant quoi, au départ, j'ai baigné là-dedans et j'en suis... c'est tout naturel pour moi d'avoir un discours militant, quoi. Ça me paraît tout à fait... Je ne me vois pas écrire autre chose que ça, quoi. Mais ce n'est pas un militantisme. C'est plus des idées un peu humanistes, de solidarité, de fraternité, des choses comme ça, quoi.
Qu'est-ce que tu en penses, ça ?
Bah ouais, c'est okay. Ça. Hein. C'est plus ça plutôt que prendre des positions politiques ou quoi que ce soit. Voilà. Il n'y a pas de leçon donnée à personne, il n'y a pas de... Voilà, ça c'est intéressant, je trouve.
Ouais, chacun prend des positions à son niveau, fait dans son travail. Nous, on est musiciens, dans la musique, on essaye de faire des choses, on essaye de garder une diversité musicale, d'avoir notre musique à nous, de ne pas forcément reproduire des schémas, de ne pas refaire ce que tout le monde fait. On est un peu contre ça aussi, l'uniformité culturelle.
L'important, c'est d'être créatif. Au début, on ne savait pas trop où on allait, ni comment y aller. Mais le premier album, on l'a enregistré, on ne savait même pas comment trop le mixer, tout ça. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait un peu du truc. Voilà, c'est tout.
Mais racontez-moi l'histoire de Virgin, parce que moi, j'ai un souvenir où j'étais à la Friche, au cabaret aléatoire. Un jour, vous avez fait une interview, il y avait Rudolf Burger... J'étais là aussi. Et j'avais entendu parler justement, puisque lui avait abordé le problème des labels indépendants. Vu que c'est un peu d'actualité en ce moment, j'avais envie de connaître votre histoire par rapport au label, justement.
Mais nous, à l'époque, on était prêts à enregistrer l'album. On n'avait aucun contact de maison de disques. Et on avait commencé à budgéter l'album. C'est-à-dire, on s'était dit, tiens, il nous faut tant d'argent. À l'époque, on travaillait avec une association qui est sur la plaine, Micmac. Et on était vraiment sur le point d'enregistrer. Puis il y a eu un contact avec Virgin, qui finalement ça a été le seul contact vraiment sérieux de quelqu'un qui s'est intéressé à ce qu'on faisait, quoi. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller signer chez Virgin un contrat d'artiste, ce qui n'était peut-être pas une super idée, mais ça nous a donné une expérience en tout cas de ce que c'est de travailler dans une major. Puis voilà, finalement, on nous a jamais influencé sur ce qu'on devait faire, la façon dont on devait le faire. On nous a donné vraiment carte blanche pour faire ce qu'on voulait. Et donc on s'est senti assez libre de travailler avec eux, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, on était plus dans une logique indépendante, quoi.
Mais on a essayé de trouver des gens à Marseille ou dans le coin, mais en fait, c'est ça, on n'a trouvé personne. Ça n'intéressait personne, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un mec de Virgin qui est arrivé, qui était lui à fond motivé. Donc, voilà.
Est-ce que vous avez eu un conflit ou pas avec Virgin ? Parce que vous êtes parti, c'est eux qui vous ont viré, pourquoi vous avez rompu ?
Après.
Alors,
par la suite, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a commencé à travailler sur le troisième album. L'album était prêt, et puis on reçoit une lettre comme ça, où on nous disait, voilà, on ne relève pas l'option, le contrat est terminé. Bonne chance, et voilà. Ça s'est passé comme ça, en fait.
Sans explication ?
Non, aucune. Et là, c'était signé par un gars qu'on n'avait jamais vu. Donc. Voilà.
Sur la lettre, il nous tutoyait, c'était assez drôle, quoi. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, qui t'envoie une lettre. Bonne chance pour votre carrière, nous sommes de tout cœur avec vous, mais on ne va pas pouvoir renouveler tout le truc. Voilà. Mais en même temps, on cherchait à tout prix, avec Corrida, nos éditeurs, de pas casser le contrat, mais qu'ils nous lâchent, quoi. Donc c'est arrivé au point nommé, quoi.
Et tout simplement, je veux dire, s'ils nous ont virés, c'est qu'on vendait pas assez de disques, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Et puis la personne qui nous avait signé à l'époque, le directeur artistique, Jean Ducasse, après le deuxième album, lui, il a cramé tout le budget qu'il pouvait pour nous, pour la promo, des choses comme ça. Et après, il est parti de Virgin, en fait. Il est allé travailler à Virgin Londres. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvés, on n'avait plus d'interlocuteurs chez Virgin. Quoi,
c'est la personne avec qui on pouvait discuter artistique, tout ça. C'était Jean, c'était la personne qui nous a fait rentrer chez Virgin. Et comme tous les 2-3 ans, c'est la course au directeur artistique. Quand tu vends pas trop, tu as été changé. C'est multinational. Donc, celui qui est arrivé derrière, en fait, il n'a pas trop capté ce qu'on faisait.
Il nous a proposé un remix d'un morceau qui était une espèce de crème lounge musique. On s'est demandé ce qu'il attendait de nous, quoi. On n'avait pas besoin de remix, quoi. Même si on a fait un album de remix, mais...
Expliquez-moi comment vous avez enregistré votre dernier album, quelles ont été les étapes et qui sont vos interlocuteurs pour sortir cet album.
Alors nous, voilà ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler à la maison sur ordinateur, on a maquetté tout l'album. Ensuite, on l'a présenté à Corrida, donc, qui sont notre éditeur, tourneur, manager.
Et ces gens-là, Corrida, ils ont d'autres groupes que vous ?
Voilà, Corrida, ils managent plusieurs groupes, dont Manu Chao, Rita Mitsuko, Zebda, Moussé Hakim, pour les plus connus. Après, il y avait les Négresses Vertes à l'époque. Il y a aussi Pierce Faccini, Red, Laetitia Sheriff. Il y a pas mal d'artistes en développement. Parce qu'eux, ils font du développement à long terme. C'est-à-dire que même si ça ne marche pas sur un album, ils soutiennent le projet, mais sur du long terme. Donc, c'est vraiment une complicité qu'on a avec eux. Il y a une entente vraiment parfaite. Donc, l'album leur a plu et ils ont dit, vu qu'à l'époque, on n'avait plus de maison de disques, on nous avait rendu le contrat, ils ont dit, on va le produire nous-mêmes. C'est-à-dire que eux, ils nous avancent l'argent pour produire l'album, c'est-à-dire l'enregistrer en studio. Et une fois que les frais de production sont remboursés, à partir de là, on fait une coproduction. C'est-à-dire qu'on est à 50-50, eux et nous, le groupe et Corrida.
Donc après, une fois que l'album est enregistré en studio, qu'est-ce qui se passe ? Quel est l'autre interlocuteur ?
Donc après, l'album a été enregistré, tout était prêt, on l'avait masterisé, et il a fallu trouver une maison de disques. Donc on était en pourparlers avec Naïve, puis finalement, ils n'étaient pas super motivés, ils traînaient un peu la patte. Et donc, Corrida était en très bon terme avec le label Bleu, qui est un label qui est sur Amiens, qui fait au départ beaucoup de world music, de jazz, et qui ont ouvert un créneau. Ils ont, dans leur label, il y a plusieurs sous-labels. En fait, il y a Indigo, Bleu, label Bleu. Et le dernier label qu'ils ont créé, c'est Bleu Électrique, où ils développent un peu des groupes, un peu des musiques actuelles et assez originales, innovatrices, un peu électro, un peu tout ça.
Donc là, quand tu parlais des différentes formes de contrats avec le label, c'est avec le label, tu as le contrat, tu me disais.
Voilà, après là, c'est là qu'une maison de disques intervient. Par exemple, pour nous, elle intervient au niveau de la distribution. Donc c'est eux qui s'occupent qui prennent notre album, qui le mettent dans leur catalogue, qui s'occupent de distribuer, donc de faire en sorte que les disques soient dans les magasins, ils s'occupent de la promotion, et donc ils sortent de l'argent pour payer la promotion, c'est-à-dire la publicité autour de la sortie de l'album.
Et quand tu parlais des deux contrats, contrat d'artiste ou contrat de licence, c'est avec eux que ça se passe ?
Avec une maison de disques. Oui. Avec une maison de disques. Mais en fait, voilà, c'est un contrat d'artiste, c'est un contrat où tu as un contrat exclusif avec la maison de disques sur toute la réalisation d'un album. C'est eux qui en sont propriétaires. Et toi, tu as un petit pourcentage, enfin, tu partages juste avec eux. Un contrat de licence, c'est-à-dire la maison de disques, elle s'occupe de la distribution. Et toi, tu peux être producteur, toi-même. Donc, c'est-à-dire que tu as peut-être un pourcentage plus grand sur les ventes de ton album.
Donc, en fait, pour récapituler, vous, en production, c'est Corrida pour l'instant ? Puisque vous devez rembourser. Et le deuxième, c'est le label. Et quand vous aurez remboursé, ça vous sera en coproduction avec Corrida et le label. Vous serez à trois.
En fait, si tu veux, tous les gens qui interviennent sur cette chaîne de collaboration en fait, pour la réalisation d'un album, ils partagent. C'est-à-dire, après, c'est une histoire de partage. On partage le pourcentage des ventes d'albums. Chacun prend une part. Nous, la maison de disques, le label, les coproducteurs, donc là, par exemple, Corrida. c'est une histoire de partage en fait. Et après tout se joue en fait dans le, l'histoire de savoir combien de pourcentage tu vas prendre. Enfin,
Est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qui vous reste quand vous vendez un disque comme somme d'argent?
Là, sur cette histoire-là, sur le dernier album, je sais pas encore. Je sais pas, mais sur sur les albums d'avant quand on était chez Virgin, on touchait très peu. On avait quelque chose comme 10%. En fait, c'était par nombre de disques vendus. Jusqu'à un certain nombre de disques vendus, on avait un pourcentage. Après, si ça vendait plus, on avait un peu plus. Mais on touchait un truc comme 10% et on devait partager avec tous les gens du groupe. Donc à la fin, tu vois, il faut faire le calcul, ça fait pas beaucoup. Mais c'est vrai que nous, au départ, on faisait de la musique, on s'est jeté, on s'est lancé, on a monté un groupe, tout ça, mais on n'avait pas de recul sur tout ça. Donc voilà, c'était, comme tu dis, c'est une opportunité. Une grosse maison de disques comme Virgin qui te propose un contrat, bon, on s'est dit, il faut tenter le coup. Bon, on ne regrette pas de l'avoir fait. Mais après, au bout d'un moment, on s'est aperçu que c'était pas, ça ne nous convenait pas. Quoi. Dans une grosse maison de disques, tu es perdu. Si tu n'as pas un interlocuteur, tu peux finir dans le tiroir. Ça peut te casser tout ton travail. Quoi. Donc, on s'est rendu compte petit à petit qu'on était mieux avec des gens avec qui on a un rapport plus proche. Et tu vois, ce n'est pas forcément des gens à Marseille. Par exemple, Corrida, ils sont à Paris. Donc, en fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément intéressant, ce n'est pas que les gens soient à côté. C'est bien. On préférerait avoir travailler qu'avec des gens qui habitent à côté de chez nous, avec qui on peut se voir tous les jours. Mais le plus important, c'est de trouver des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu es en confiance. La Corrida, c'est des gens qui nous ont jamais lâchés, même quand il y avait des problèmes. On a confiance, quoi. C'est ça qui est important, la confiance, et puis de pouvoir se parler facilement, se téléphoner, avoir un contact humain, simple. Aujourd'hui, avec la Belle Bleue, c'est plus comme ça. On se rend compte que c'est un label plus petit, ça nous correspond mieux. Et en plus, moi, j'ai l'impression qu'ils travaillent mieux, quoi, parce qu'ils sont plus motivés. Dans les grosses maisons des disques, les gens se tirent dans les pattes, il y a des conflits, des histoires de tout le monde, des histoires de pouvoir, quoi. Tu sens ça aussi. Les gens veulent monter en grade et puis en fait, ils s'en foutent de toi. Quoi. Et dans un petit label, comme le Label Bleu, c'est un petit label, je pense, les gens sont plus passionnés. Déjà, ils signent des artistes qu'ils ont envie de signer. Et donc après, une fois qu'ils ont signé, ils les défendent parce que ça leur plaît. Ouais, puis il y a plus de passion pour la musique et d'ailleurs un rapport plus simple. Ouais.
Et donc moi, par exemple, ma question, c'est que dans mon podcast, quand je fais des émissions, je fais des interviews des groupes et l'idée, c'est de faire de la promotion, c'est-à-dire de mettre la musique aussi sur l'émission radio. Et pour ça, il me faut l'autorisation des artistes. Donc est-ce que vous me donnez cette autorisation de diffuser sur mon podcast votre musique? Est-ce que vous êtes
l'album,
capable de le faire?
L'album
vos morceaux en général?
Moi, honnêtement, je dirais que ça te regarde. Hein.
Nous, on n'est pas... Voilà. Si tu vas enregistrer le concert et passer des morceaux, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne pense pas que...
Oui, mais qu'en pensera votre label, par exemple?
Qu'est-ce qu'il va dire? Nos éditeurs, peut-être. Ils auront un son de cloche différent. Mais moi, je dis que tant que ça peut diffuser la musique, c'est tant mieux. Je veux dire, on ne va pas s'opposer à ça.
Et vous, donc, vous êtes d'accord? Vous pensez que votre label serait d'accord aussi? Parce que ça, est-ce que c'est une question qu'il ne faut pas poser plutôt de répondre à leur place? Parce que moi, je vous pose cette question parce que quasiment tous les artistes, depuis mars que je fais donc mon podcast, ils me disent tous « Oui, vas-y, vas-y, j'ai enregistré les scènes live ». Chris Bailey m'a dit oui, vas-y, enregistre live.
T'aimerais que le Label Bleu t'appelle et te dise on va vous faire un procès parce que tu diffuses sur une petite radio d'internet, tu vois, c'est pas France Inter ou c'est pas, il faut pas non plus déconner quoi. Mm-hmm. C'est relatif. Passer la musique, pour moi, voilà, comme il dit, c'est très bien. C'est pour nous, c'est l'important, c'est d'être diffusé.
Là, je vous pose la question avec des idées maintenant parce que depuis je me suis renseignée, c'est que donc vous êtes d'accord, vous pensez que votre label est d'accord aussi. Est-ce que vous avez pensé que vous êtes enregistré vos chansons à la SACEM?
Ouais.
Est-ce que vous avez imaginé que la SACEM, elle, elle n'est pas d'accord?
Mais la SACEM, on s'en fout, la SACEM. Non, je veux dire, la SACEM n'est pas le tout-puissant, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? La SACEM, il y a 70 ans, elle n'existait pas, quoi. Et les musiciens, ils étaient là. Donc... Moi, je me sens pas. C'est pas mon patron, la SACEM, quoi. Tu comprends ce que je veux
dire? Ben oui, mais ce qu'il y a, c'est que juridiquement, quand tu as.
Quelque part, et puis demander dans un lieu de diffusion De payer les droits.
Ah, mais ça, elle le fait d'ailleurs.
Elle le fait,
elle se goinfre avec ça, et puis c'est très bien. Et puis nous, on en touche des bénéfices parce qu'on est artiste, il n'y a pas de problème. Je crache pas non plus sur la SACEM, attention. Hein. Moi, je suis bien content quand on reçoit un petit chèque de la SACEM. Surtout en fin d'année, tu vois, Noël, ça fait plaisir.
C'est ça, tout à l'heure, il disait c'est à toi de voir. C'est-à-dire que c'est vrai que si toi tu deviens un lieu de diffusion de musique, c'est à toi de gérer avec la SACEM, comme tous les bars musicaux ou les lieux de concert, ils font ça.
Toi, tu montes une radio,
c'est pas à nous de le gérer, mais après. Le problème, c'est que les podcasts, ça existe depuis septembre 2004, c'est récent, et c'est quasiment à 99% des bénévoles. C'est-à-dire que personne gagne de l'argent en faisant ce travail. Donc nous, il est impossible, en ne gagnant pas d'argent, d'en donner. Tu vois ? Et là, en ce moment, on va être en conflit avec la SACEM. Pour l'instant, il n'y a pas de texte de loi parce que le podcast, ce mot, il n'existe pas dans les textes. Donc la SACEM est en train de travailler dessus. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'ils disent qu'ils sont redevables vis-à-vis de vous de gérer vos droits du jour que vous avez déposé vos chansons chez eux. Et qu'à partir de là, l'artiste n'a plus la liberté de donner le droit de jouer sa musique gratuitement sur Internet. Et ça, c'est le droit d'auteur en France. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, il y a des gens qui déposent leurs chansons à BMI, c'est l'équivalent, et ils ont la possibilité, les artistes, de dire tel et tel morceau, on les libère du copyright et on accepte qu'ils soient joués gratuitement sur Internet, sur des podcasts, par exemple. Donc, on arrive dans une situation où moi, je fais a priori de la promotion de la musique française, c'est mon but, à me retrouver en interdiction de jouer la musique française, alors que j'aurais le droit de jouer la musique américaine. Parce que j'en connais plein de groupes de rock américains qui sont des copains comme vous, voilà. Et bon, je me dis, c'est aberrant.
Bien sûr que c'est aberrant, mais le système français de la SACEM, il est assez aberrant. Hein. Moi, je crache pas sur la SACEM, loin de là. Hein.
Mais est-ce que vous touchez beaucoup d'argent de la SACEM ?
Non, on ne touche pas beaucoup, puisqu'on ne vend pas beaucoup pour le moment. Donc, puis on rembourse nos avances.
En fait, ils nous ont fait une avance au départ, enfin, Corrida, donc, notre éditeur, nous a fait une avance au départ qu'on a signé avec eux. Et donc, pour l'instant, c'est eux qui récupèrent les droits d'auteur tant que on n'a pas remboursé l'avance. Après, ça sera à nous. Mais pour l'instant, bon, c'est vrai que les droits d'auteur, on n'en génère pas énormément. Bon, ça vient petit à petit, quoi.
On ne vit pas de droits d'auteur, quoi. C'est ça que tu nous demandes. Et on ne vit pas non plus d'intermittent, puisqu'il n'y a aucun...
Ouais, c'est bon,
on n'est même pas au RMI. Si Pierre-Lot, peut-être, tu vois.
Non, j'ai pas droit.
Sam, je crois qu'il a encore un mois d'intermittent.
Moi, j'ai le fonds transitoire d'allocation. J'ai les sursis jusqu'en juin, je suis tranquille.
Ouais, comme on a arrêté de jouer à un moment, on a un peu perdu nos droits. Il y a des histoires. Donc là, ça repart. On espère pouvoir être intermittent bientôt.
Parce que là, à l'heure actuelle, on ne sait pas du tout comment ça va s'orienter, le rapport avec la SACEM. Mais ça ne s'annonce pas bien, quoi. Donc, moi, je ne sais pas, à un moment donné, si moi, la SACEM demande de l'argent, je ne peux plus diffuser les groupes qui seront inscrits à la SACEM, tu comprends ? Donc, si vous avez déjà...
On fera des morceaux qui ne seront pas déposés à la SACEM, spécialement pour des radios comme toi.
C'est ça, super,
ça nous permettra de faire des nouvelles compos, et c'est très bien.
Mais alors, il faudra le faire vraiment... Ah, là, on sera presque en illégalité, parce que normalement, la SACEM, elle exige que tu déposes toute ton œuvre.
Non, elle exige...
Ça restera entre nous, alors.
Ouais, non, mais ce que je te dis là par rapport à la SACEM, peut-être on vendrait 100 000 albums, j'aurais pas le même discours. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, je vois que tous ceux qui montent au créneau, en général, c'est ceux qui vendent beaucoup d'albums. À dire attention, ça va pas du tout, se faire piller les morceaux sur Internet comme ça. C'est beaucoup ceux qui vendent beaucoup d'albums. En général, les petits, tous les gens qu'on rencontre en général, j'ai jamais vu de mecs qui sont contre ça ou qui ont vraiment une politique à dire non, il faut pas. L'important, c'est la diffusion pour des groupes comme nous, c'est la diffusion. Hier, on a joué à Arles, c'était plein. Si sur les 200 personnes, il y en a 10, c'est parce qu'ils ont chargé un morceau de Dupin, ils ont dit tiens, regardez, groupe français, tiens, je charge. Peut-être ça leur a permis de venir au concert. Pour nous, c'est gagné. C'est ça l'important.
Et la sortie d'acheter un disque, c'est encore gagné.
Acheter un disque parce que tellement il aura aimé le concert, il voudra l'objet. Ce qui est important là, d'acheter un disque, c'est pas une copie, quoi.
Et surtout que même pour revenir à quelque chose de plus simple, plus fondamental, au départ on fait pas de la musique que pour faire des disques et les vendre. On fait de la musique parce que ça nous plaît, qu'on veut parler de choses, qu'on a envie de qu'il y ait des gens qui écoutent notre musique. Donc nous, ce qu'on a intérêt, c'est que la musique soit diffusée le plus possible. Mais après, c'est sûr qu'il y a tout le jeu des droits d'auteur, le fait d'avoir signé, d'avoir déposé les morceaux à la SACEM. Après, les choses deviennent compliquées, quoi.
C'est très compliqué, c'est ça, c'est...
Est-ce que vous vous sentez suffisamment impliqué pour, si jamais il y avait un combat à mener, pour faire entendre sa voix et dire « Mais attendez, nous, on a envie qu'une partie de notre musique, quand il s'agit de gens qui lui font une utilisation non commerciale, puisse l'utiliser gratuitement. »
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
La forme possible que nous, on avait notre mot à dire, c'est sûr qu'on forcément sera 100% pour le fait d'avoir plus de liberté dans la diffusion, justement, de gens qui ont de lieux qui n'ont pas de moyens ou qui font des diffusions gratuites. S'il y avait une réforme possible, qu'on demandait l'avis aux musiciens, à tout le monde, nous, on serait pour, c'est sûr.
Ouais, ça dépend du contexte, quoi. Ça nous arrive de jouer gratuitement aussi. Alors que normalement, il faudrait qu'on joue payé. Mais selon qui le fait, pourquoi, est-ce que c'est un acte militant ou de bénévole, on se sent impliqué, là, par contre. C'est notre politique, de façon de voir les choses, quoi.
En fait, le problème avec les droits d'auteur, les lois par rapport aux droits d'auteur, c'est que c'est compliqué, c'est flou, toujours. Et donc, tant qu'il n'y a pas de problème de gros sous, en fait, souvent c'est ça, c'est les histoires d'argent qui font... que les gens, qu'il y a des gens qui viennent se plaindre, comme sur les maisons de disques. Donc il n'y a pas de problème. Personne ne va chercher les lois pour faire des procès, etc. Dès qu'il y a des problèmes, il y a des procès qui se déclenchent. Après, on se rend compte que les lois, elles sont floues sur les droits d'auteur. C'est l'histoire d'Internet. C'est justement. Pendant un moment, il y a des gens qui disent que le téléchargement sur Internet, ça fait partie de la copie privée. Ça rentre dans le cadre de la copie privée, mais en fait, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et quand ils regardent les textes de loi, ils sont assez flous.
Justement, c'est-à-dire que là, en ce moment, ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a une loi qui est en débat à l'Assemblée nationale, qui aurait dû être votée à Noël.
Pour le pire tout pire.
Voilà, et qui n'a pas été votée parce que finalement, des députés de droite et de gauche sont liés pour, en quelque sorte, le résultat. Voilà, c'était refuser la pénalisation du téléchargement et ça aboutit à la légalisation du pire tout pire pour l'instant. Mais cette loi n'est pas votée. Elle va être reprise à l'Assemblée mardi. Ce qui veut dire que pour l'instant, il y a une grosse pression de partout, parce que là, par exemple, lundi, il y a une table ronde à l'UMP chez M. Nicolas Sarkozy, où j'ai été sollicitée pour y aller à un moment donné. Mais quand ils ont regardé sans doute mes sites, j'avais une interview d'un député communiste sur l'un et sur l'autre, c'est du punk rock de Vancouver où ils chantent dans un pipe show. Je me suis dit, je ne sais pas si je suis la candidate idéale pour parler à la table ronde à l'UMP. Il y a quelqu'un qui a fortement insisté, qui a donné mon nom, mais je n'ai pas reçu d'invitation, donc je crois que je ne suis pas la bienvenue. Mais cela dit, j'ai donc interviewé un député communiste et lui m'a dit que s'ils arrivent à obtenir une mission parlementaire pour remettre à plat le texte, parce que c'est n'importe quoi en ce moment... Il faut refaire un débat public et demander aux gens, aux artistes, et à tous les artistes. Parce que
il serait temps, qu'ils nous posent un peu la question et qu'on rentre un peu dans le débat. Hein. Il n'y a pas de problème. Au lieu que ça reste dans un cercle de politicards ou de gens, ou de M. Pascal Nègre et ses amis.
Les autres disent que de leur côté, il doit y avoir les fournisseurs d'accès Internet qui veulent au contraire que ça reste libre parce que ça leur apporte du fric, qu'il y ait des gens qui s'abonnent. Internet juste pour télécharger. Donc c'est une guerre. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une espèce de forum où tout le monde participe et comme tu disais, que tout le monde soit représenté, les artistes,
les petits, les moyens, les connus, les pas connus.
Les artistes, que tous, et puis qu'on trouve une solution équilibrée pour qu'il y ait des droits d'auteur qui existent, mais qu'il y ait quand même une souplesse pour qu'on ait le droit de diffuser sans qu'à chaque fois on vienne te faire un procès.
Moi, je sais pas, je me mets à la place des minots, je me dis, nous on avait les cassettes. Quand tu pouvais pas acheter le disque, ton copain te faisait une copie cassette et tu étais bien content. Même si ça soufflait, machin, tu arrives à la maison, tu écoutais ton nez, trop bon. Et de quel droit j'irais dire à des minots, non, c'est fini tout ça maintenant. Soi-disant parce que c'est une copie clone.
C'est pire que ça, c'est que cette loi, elle punissait de 3 ans de prison et de 300 000 euros d'amende. Tu vois,
ils ont chopé les minots 17 ans. Attends.
Non, mais là, là pour la loi, la loi,
qui, des exemples,
la loi qui devait être votée, c'était ça. Et c'était tellement excessif que c'est ce qui l'a fait capoter, par chance.
Bien sûr.
Mais bon, elle a fait capoter à 2 voix. C'est-à-dire, c'était 28 voix qui étaient pour la loi et 30 contre. Donc, c'était à 2 voix. Et il y avait donc 58 députés dans l'Assemblée. Je ne sais pas si tu vois, quand tu dis qu'une loi aussi importante allait le voter à si peu de personnes. Il suffit de 2 voix pour sauver la mise temporairement.
Qui décide de savoir comment ça va se passer pour des millions de personnes. Bon, ça, on le sait, c'est la politique. Hein. Mais quand même, je pense que là, ils doivent se lever le cul et poser la... que tout le monde rentre dans le débat.
Mais est-ce que vous, au niveau musicien, vous faites partie d'une association, un groupe, quelque chose où vous êtes isolé complètement
Isolé, perdu, non. Non, on n'a pas... On ne fait pas partie d'une association. Si, moi, je suis inscrit à Micmac, je crois. Cette année, j'ai repris la carte.
Et toi?
Non, non, moi, j'allais dire, j'adhère à rien, c'est pas vrai. Mais... Non, on n'est pas dans un mouvement particulier, mais c'est au coup par coup.
Mais au niveau du fait que dans Marseille, quand même, la plupart des musiciens se connaissent, puisque moi, je les connais un peu tous, et vous me dites tous que vous avez joué avec l'un, avec l'autre. Mmh. S'il y a quelque chose qui bouge, on peut imaginer que des gens de Massilia, des gens de l'EDA, c'est des gens qui sont dans la même mouvance que vous, pour se mobiliser sur des projets comme ça. Parce que moi, je me demande si l'information, elle est passée, parce que c'est bizarre. Tu vois, la loi, normalement, on en parle parce qu'elle a été bloquée, mais normalement, on n'avait même plus en parler, elle était votée le 23 décembre, c'était fini, quoi. Donc, je sais pas, c'est des choses.
Je sais que j'en ai entendu parler dans les courriers de la Spedidam, mm-hmm. qui parle de ça ces derniers temps, qui nous envoie les courriers, puisque nous on est inscrits, c'est ceux qui gèrent les droits des interprètes. Ils nous envoient un courrier régulièrement, puisqu'on est inscrit comme interprète, artiste-interprète. Et ils parlent de ça dans les courriers. Moi, c'est là que j'ai vu en fait qu'il y avait cette loi qui avait été repoussée, qui avait été refusée.
Mais pourquoi vous êtes chez les interprètes?
Parce qu'on est aussi déclaré comme artiste-interprète. La Spedidam, il gère des droits d'interprète. C'est-à-dire, c'est dans le cadre des concerts, en fait.
Quand on joue, notre propre musique.
Oui, c'est ça, c'est votre propre production.
Ouais, ouais, mais ça marche aussi.
Non, mais on pourrait.
Si on touche sur ton interprétation à toi, tu interprètes tes morceaux, donc ils sont joués en concert, donc tu touches de l'argent là-dessus.
Aujourd'hui, on fait ça, mais si demain on joue un morceau de notre. Qu'on fait du bal, ou je sais pas, qu'on joue des morceaux d'autres auteurs, ben.
C'est lui qui touchera.
Voilà,
parce que là, dans cette loi, justement, il était prévu qu'en interdisant le téléchargement sur le site, et donc gratuitement, les groupes, ils ont tous des morceaux qu'ils mettent à disposition, des MP3 pour faire leur publicité sur leur site. Ouais. Ben, tu devrais payer pour ça, dans le cadre de cette loi. Ben non, un artiste, normalement, d'après la SACEM, n'a même pas le droit de mettre un morceau à lui, sur son site, à télécharger gratuitement. Non, mais c'est vrai, hein.
Je ne sais pas où ils sont des fois, mais ils sont loin.
C'est vrai que c'est problématique. Parce que...
Non, mais moi, je crois qu'il y a des réformes à faire parce que c'est bizarre quand même. Tu vois, moi, je serais à votre place, je me poserais quand même des questions parce que je trouve que c'est bizarre, quoi. Tu vois, d'être...
Ils n'ont pas anticipé Internet, quoi, les maisons de disques et puis la SACEM.
Ça s'est passé très vite.
Ils ne se sont pas mis au goût du jour, quoi. Voilà, c'est pour ça que ça traîne, en fait, tous ces problèmes-là. Bon, c'est d'accord, c'est l'argent, tout ça, mais c'est ce qui traîne aussi, ils se renseignent très peu, quoi.
Il y a 10 ans, ils rigolaient quand tous les gens ils parlaient d'Internet. Même Zappa, en 89, il avait, avec un copain à lui, il avait compris la direction que ça pouvait prendre. Il avait proposé de faire des échanges de morceaux contre de l'argent, mais un coût réduit, très faible. Et il avait proposé ça au Sénat américain, ils avaient rigolé, les mecs. Et maintenant, ils sont tous à se demander comment il faut faire pour récupérer le plus d'argent possible.
Non, mais c'est vrai que quand on en parle, nous, on se dit qu'il faut refaire un texte de zéro avec la nouvelle technologie d'Internet et la SACEM. Il faut vraiment...
En accord avec les artistes, voilà. La SACEM et tous les gens du spectacle. Et
y compris les labels.
Tout le monde. Qui est une discussion générale.
C'est une révolution, quoi, la technologie d'Internet par rapport à ça. Donc ça a mis un coup de pied dans toute cette histoire, toutes ces lois de droit d'auteur et tout. Forcément, je pense qu'on va être obligé de d'écrire un texte de loi, de refaire les lois pour que ça prenne en compte ça, quoi, Internet et tous les téléchargements.
Bon, je vais pas vous ennuyer davantage.
Je vous embête pas.
C'est
bien, c'est bien, c'est important.
Ces histoires-là, c'est pose la question, mais maintenant, moi, je commence à peine à m'intéresser à ça. Là, j'ai lu un bouquin en ce moment sur les droits d'auteur. Mais parce qu'en fait, on est comme tout le monde, quoi. C'est passé très vite, c'est récent, toutes ces histoires.
On comprend pas grand-chose.
Par rapport au téléchargement. Donc, du coup, ça nous fait nous poser des questions sur les droits d'auteur. Est-ce que c'est. Voilà, bon, mais ça. Voilà, on est en train de réfléchir à tout ça.
On rappelle le nom du nouvel album ?
Donc, c'est le nouvel album, ça s'appelle Les Vivants. On a commencé à le tourner un peu, là. Et on sera en concert à Marseille le 24 février, au Moulin. Avec, comme invité, on aura David Walter et Original Occitane, qui est un groupe de polyphonie de filles.
De filles ?
Que des filles.
Et combien de filles ?
8.
Oh là là. Et est-ce qu'il y a d'autres concerts qui sont prévus après dans le courant ?
30 janvier, on joue au Baumettes, à Marseille, à la prison des Baumettes.
Pour les femmes ou pour les hommes ?
Pour les hommes. Ah ouais, on a organisé ça. Là. Et on fera certainement une petite date surprise au Poule Passon, courant du mois d'avril. Il faudra vous renseigner sur la date exacte. D'un concert au quartier de la Plaine, parce que c'est un quartier qu'on aime bien. Et je pense qu'on va jouer au Poule Passon, et peut-être que certainement on essaiera de jouer plus tard au Balthazar. C'est des salles qu'on aime bien, on a envie d'y jouer, quoi.
J'attends vos réactions sur meltingtalk.com et n'oubliez pas le concert de Dupin bientôt sur meltingpod.com. Bye, tchuss, au revoir and stay connected.
C'est moi, Sam de Dupin, et j'écoute Melting Pod avec Annie de Marseille.
Bonjour, Pierre Lot de Dupin, et j'écoute Melting Pod avec Annie de Marseille.
C'est Nono du groupe Dupin, et j'écoute Annie sur Melting Pod, ça, de Marseille. Et arrêtez de télécharger, il y en a marre maintenant.